Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, Jacques Chirac sera enterré au cimetière du Montparnasse auprès de sa fille Laurence. Un hommage populaire à l'ancien président se prépare pour dimanche aux Invalides et lundi donc l'hommage national, la messe à Saint-Sulpice et l'inhumation. Chirac, le jour d'après, quels sont ses héritiers? Nous verrons cela avec Yaël Gauze. La rancune tenace que lui voue encore Jean-Marie Le Pen alors que sort le second tome des mémoires de l'ancien leader d'extrême droite. Chirac et les Juifs de France, reconnaissant après le discours du Veldiv, en Israël, plus de réticence. L'ancien président était d'abord le héros du monde arabe. Et puis nous vous raconterons l'histoire de deux photos. L'une est secrète le jour de son élection, nous commencerons par là. L'autre est célèbre le jour où il a fraudé dans le métro, nous finirons par là. Les autres titres de l'actualité, odeur d'œufs pourris, fumée, maux de gorge et maux de tête après l'incendie de l'usine chimique de Rouen hier. Le feu est éteint, pas de toxicité aiguë assure la préfecture, mais l'inquiétude demeure. Qui est ce mystérieux lanceur d'alerte qui met une nouvelle fois Trump en difficulté? Nous irons à Washington. Une nouvelle marche pour le climat aujourd'hui. Et à propos de climat, Mathieu Vidard, on vous retrouve la Terre au carré après ce journal.
Oui Bruno, mercredi était révélé donc le rapport du GIEC sur les océans, les zones de glace. Comment ces changements du climat vont-ils affecter la vie des populations? Eh bien vos questions dès maintenant à l'océanographe Éric Gilliardi.
Au 01 45 24 7000, c'est le numéro du standard. À tout à l'heure Mathieu. Avant cela, comme chaque vendredi, j'ai testé pour vous un journaliste de France Inter donne de sa personne. Aujourd'hui, Guillaume Batin essaye le saut à la perche pour fêter l'ouverture des mondiaux d'athlétisme. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Avant de détailler les cérémonies des jours à venir, l'histoire d'une photo restée cachée. 7 mai 1995, 20h, Jacques Chirac est officiellement élu président de la République. La photographe Bettina Reims est là, elle déclenche l'appareil.
Probablement la plus belle photo que j'ai faite de lui. Il est 8h ce dimanche soir-là, on est dans son bureau, lui et moi, tous les conseillers, tout le monde est parti annoncer la bonne nouvelle, il est président de la République. Bernadette est partie d'un côté, Claude d'un autre, tout le monde est parti. On est tous les deux dans le bureau, moi avec mon appareil photo. Il y a une toute petite télévision dans un coin du bureau. Il est debout, très très grand, les mains derrière le dos, comme il était souvent. Et il regarde l'écran, et moi je suis de côté, et sur l'écran s'affiche le portrait du gagnant, et des larmes coulent, et je fais la photo.
Et pourquoi elle n'est pas publiable? Parce qu'il pleure.
Claude m'a demandé de ne pas la publier. Claude Chirac, sa fille. Parce que c'était un moment de vulnérabilité et qu'un président de la République élu, 2 minutes avant, n'a pas le droit à la vulnérabilité. J'aurais aimé publier cette photo, mais j'ai compris.
La photographe Bettina Reims ce matin sur France Inter avec Augustin Trapenard. Bettina Reims qui est aussi l'auteur de la photo officielle de Chirac président. Elle garde l'image dont elle parlait là, elle la garde quelque part dans un coffre. La vulnérabilité dont parlait Bettina Reims, c'est l'histoire des dernières années de vie de Jacques Chirac jusqu'à sa mort hier matin. Au cimetière du Montparnasse reposent déjà Gainsbourg, Raymond Barre, Raymond Aron, Beauvoir et Sartre, Maupassant, Stéphane Hessel, Mireille Darc, Volinsky, Philippe Noiret et Claude Lanzmann. Lundi, Jacques Chirac les rejoindra. Bonjour Yaël Gauze.
Bonjour Bruno.
C'est donc ici au cœur de Paris qu'il sera inhumé auprès de sa fille. Et le jour des adieux, ce sera donc lundi, Yaël.
Oui, et dans la plus stricte intimité, Jacques Chirac va reposer dans le caveau familial, aux côtés de Laurence, sa fille aînée, décédée il y a 3 ans. Cette histoire-là, Bruno, cette histoire familiale, c'est aussi sa blessure secrète, comme Jacques Chirac le confiait à Pierre Péan. Un père hyper présent, malgré la politique, malgré la vie publique, pour aider Laurence atteinte d'anorexie mentale. Ces deux-là seront donc réunis au cimetière du Montparnasse après plusieurs autres temps forts lundi. D'abord, un hommage le matin au Conseil de Paris. C'est l'ancien maire qui sera célébré par les élus de la capitale. Puis, une messe en l'église Saint-Sulpice, à midi, présidée par Monseigneur Aupetit. Saint-Sulpice qui remplace Notre-Dame, le lieu habituel des hommages au président décédé. Après l'office religieux, minute de silence, observé dans tout le pays, sera 15h. Puis, moment de recueillement dans toutes les administrations. Sachez enfin que dans les écoles, collèges, lycées, les enseignants qu'ils souhaitent pourront consacrer un cours à la mémoire de Jacques Chirac. Lundi, jour de deuil national, ce qui signifie aussi que tous les drapeaux, vous le verrez, seront en berne. Politiquement, jour de trêve. On reparlera immigration à l'Assemblée, mais la semaine d'après.
Restez avec nous, Yaël, parce que d'autres hommages sont prévus pour ce week-end. D'abord, parlons de ce livre d'or, installé depuis hier dans le vestibule de l'Élysée, ouvert au public, le vestibule. Et donc, depuis hier, des centaines de personnes qui défilent ce matin encore. Parole au micro France Inter de Julie Pietri.
J'ai entendu à la radio qu'on peut venir mettre un mot
Donc voilà, c'est un peu émotionnel. Ça donne le sentiment d'appartenir à une nation. Voilà. Je trouve que c'est une excellente initiative de nous permettre de venir. On se sent français.
C'est très solennel. On monte, il y a la grande allée avec le chemin balisé. Donc c'est vrai qu'il y a un protocole qui est assez impressionnant pour nous, pour le commun des mortels. Et avec les marches, toute la garde républicaine autour, l'image de Jacques Chirac au fond. Je ne suis pas de politique, mais j'ai aimé l'homme, le charisme de cet homme, les bons côtés, les mauvais côtés. Je sais, c'est un homme politique. Ça fait 30 ans que je le suis, en fait. Il y a de l'émotion.
Ce matin, je me disais, je vais mettre un truc intéressant, enfin, tiré d'un grand livre, etc. Pas du tout, j'ai mis merci. J'ai trouvé que tout le monde mettait tellement de trucs intéressants. Je me suis dit, moi, je vais mettre merci. Qu'est-ce que j'ai mis merci et condoléances affectueuses à la famille. Vous voyez, c'est simple. C'est pas comme moi, parce que moi, je suis un peu... Bon, j'ai été simple, pour une fois.
Un dernier hommage avec un foulard tête de mort.
J'ai voulu être sobre. Mais sinon, je suis plutôt rock'n'roll pour une mémé de 80 berges.
Voilà, pour la mémé de 80 berges, ce matin, au micro de Julie Pietri. Et c'est vrai que dans le palais présidentiel, ce vendredi est un jour particulier. D'abord, celui qui a tenu les lieux pendant 12 ans vient de s'éteindre. Il y a ces centaines de personnes qui défilent. Et elles peuvent croiser des ministres, puisque c'est jour de conseil des ministres. En plus, bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
En direct de l'Élysée, racontez-nous cette ambiance particulière, Laurence.
Alors oui, en théorie, c'est vrai que les ministres vont croiser cette longue file de gens silencieux, recueillis, qui sont arrivés donc tôt ce matin pour dire à leur manière leur lien à Jacques Chirac. On les voit entrer un par un dans le hall de l'Élysée. Au-dessus d'eux, les drapeaux ont été mis en berne. Il y a une photo de Jacques Chirac du temps de sa présidence avec de chaque côté de gros registres que les personnes viennent noircir de leurs sentiments. Des jeunes, des plus âgés, des femmes, des hommes en costume ou en habit traditionnel. Ce monsieur, par exemple, en costume traditionnel comorien. Il est venu présenter ses condoléances à la famille et au peuple français. Et avec émotion, il nous dit qu'on a perdu un grand homme qui portait haut l'humanisme et les valeurs de la France des Lumières. Il y a cette dame en talons et sac de marque. Elle s'autorise un petit selfie. Oh, ne le dites pas. Bah, c'est tant pis, je l'ai fait. Pour rien au monde, elle n'aurait raté cet hommage. C'est formidable, dit-elle, de pouvoir dire nous aussi notre Chirac. Alors les ministres, pour l'heure, sont toujours réunis autour de la table du Conseil. La pluie s'est abattue sur la cour. C'est les larmes du ciel, on dira.
Laurence Perron en direct de l'Élysée avec les moyens techniques d'Hélène Langlois. Parmi les initiatives de ces dernières heures, Christian Estrosi, le maire de Nice, qui annonce vouloir nommer une avenue ou un boulevard de Nice au nom de Jacques Chirac. Un cahier du souvenir ouvert au siège du parti Les Républicains, héritier du RPR fondé par Chirac et de l'UMP. Et puis la Corrèze, dans ce département chiracien, les souvenirs, les anecdotes se bousculent depuis hier. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Cyril Graziani, en Haute-Corrèze, à Meymac.
Jacques Chirac avait ses habitudes chez Françoise. La tête de veau, les alouettes qu'il dévorait. La patronne du restaurant du même nom se rappelle que c'est son père qui a mis le pied à l'étrier de Chirac sur ses terres paysannes.
Mon père était inséminateur. Et quand Chirac a débuté sa campagne, pour connaître les paysans et les maires paysans, etc., etc., il se faisait trimballer par l'inséminateur. C'était très important. Il y a plein d'anecdotes que mon père aurait pu vous raconter.
Sa mère Monique reste désormais la mémoire vivante des lieux.
De toute façon, sans Chirac, la Corrèze ne serait pas ce qu'elle est. Hein. Vous vous rendez compte? On n'aurait pas d'autoroute. Hein. Parce que moi, j'avais acheté cette maison et puis j'en ai acheté une deuxième après. Pourquoi? Parce que Chirac amenait tout le temps du monde. Hein. Il nous a même amené une usine de produits pharmaceutiques qui a tenu 20 ans. Il a commercialisé ça avec les Amerloques. Hein. 20 ans de produits pharmaceutiques à Meymac, moi, ça m'a permis de payer tout ce que vous voyez là. Hein. Et quand Chirac est parti, les Américains aussi.
Ami des grands patrons, Chirac profite de son lien avec Decaux pour organiser un petit coup de com' à Meymac, se rappelle Françoise Béziers, la présidente de sa fondation.
Il avait fait du mobilier urbain. Ils avaient fait un coup, c'était d'inaugurer le même jour à New York et à Meymac une sanisette, quoi. Comme il disait, une pissotière. Mais attendez, rendez compte, la même à New York et à Meymac. Hein.
À Meymac, comme en Corrèze, a-t-on coutume de dire, c'est une belle terre où poussent des champignons et des présidents.
New York, Meymac, même combat. Yaël Gauss, vous êtes resté avec nous. Vous nous avez détaillé la journée de lundi, l'inhumation, l'hommage national. Il y aura d'autres hommages dans les jours à venir, ce week-end, dimanche en particulier.
Oui, alors Laurence nous en parlait, le livre d'or reste ouvert jusqu'à dimanche soir. Les Français qui le souhaitent peuvent se rendre à l'Élysée pour coucher sur le papier leur message personnel. 4 registres ouverts hier, il a fallu en rajouter 2, tellement il y avait la queue hier soir rue du Faubourg-Saint-Honoré, des registres de condoléances qui seront ensuite remis à Claude et Bernadette Chirac. Et puis dimanche, en début d'après-midi. Et ça, c'est à la demande de la famille. Hommage populaire aux Invalides à Paris, où sera exposé le cercueil de l'ancien président. Les modalités restent à définir. Hein. Je disais à la demande de la famille, oui, parce que pour Claude, sa fille, il s'agit de faire en sorte que les Français puissent être présents, l'entourer. Un peu comme De Gaulle l'avait stipulé dans son testament. Si vous voulez me rendre hommage, venez à Colombey. C'était en 70. Là, c'est venez lui dire au revoir aux Invalides.
Et Mitterrand lui avait dit une messe est possible. Alors au moment des hommages, presque tous les adversaires ont trouvé des mots aimables pour l'ancien fauve politique qu'était Chirac. Parmi ceux qui ont fait le service minimum, Valéry Giscard d'Estaing et Jean-Marie Le Pen. Mort, même l'ennemi a droit au respect, dit Le Pen. Des années de détestation ne peuvent pas s'effacer comme cela. Chirac avait refusé de même débattre avec lui à la présidentielle de 2002. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Coïncidence, le tome 2 des mémoires de Jean-Marie Le Pen sort mercredi en librairie. Cela s'appelle Tribun du peuple. Ça va de 1972, la création du FN, à aujourd'hui. Et sans surprise, Maxence, on y trouve des pages pleines d'acidité à l'égard de Chirac.
Oui, j'accuse Jacques Chirac et François Mitterrand du meurtre de leur pays, écrit d'emblée Jean-Marie Le Pen, qui voit dans l'ancien président gaulliste un étudiant marxiste vieilli, un homme de gauche qui au départ vendait l'humanité à la criée et haïssait la droite et la nation, prête à changer la France et remplacer son peuple. Même si au départ, le fondateur du FN semblait prêt à une alliance avec lui, il lui propose en 82 avant des municipales. 86, raconte-t-il, Jacques Chirac bombardé Premier ministre sur la promesse formelle de régler le problème de l'immigration, l'espérance du peuple qui il célébrait en parole, il l'a noyé dans le jus de navet prévisible d'une commission technocratique. Deux ans plus tard, la présidentielle 88, Chirac second derrière Mitterrand, Le Pen quatrième à 14%. Les deux hommes se rencontrent dans l'entre-deux-tours. Toujours nerveux, toujours clopant, décrit-il. Chirac avait quelque chose de clair à me dire, c'est qu'il ne pouvait rien m'offrir, même pas une promesse. Ce jour-là, il fit le deuil de la présidentielle. En refusant toute alliance, il révulsait son aile droite et l'a poussée dans mes bras, se réjouit aujourd'hui Jean-Marie Le Pen. Puis vient le 21 avril 2002, le président, jusqu'ici piètre candidat, que la presse nommait au choix escroc ou super menteur, devint subitement saint et sauveur. Jean-Marie Le Pen lui en veut encore d'avoir refusé le débat d'entre-deux-tours, mais depuis son tweet hier, son entourage le décrit touché, affecté, par la mort de son meilleur ennemi, et c'est pourquoi il reste silencieux.
Merci Maxence Lambrecq. Parmi les Français qui avaient noué un lien particulier avec Chirac, les Français de confession juive, leur histoire avec l'ancien président a été marquée par ce discours du 16 juillet 95, dans lequel il reconnaissait la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv. Ces 13 000 juifs parqués en 42 dans un stade de sport, le Vélodrome d'hiver, pour être déportés.
La folie criminelle de l'occupant avait bien été secondé par des Français et par l'État français. Je veux redire avec gravité que l'antisémitisme n'a pas sa place en France. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est une perversion. C'est une haine qui plonge ses racines dans les profondeurs du mal et dont nulle résurgence ne peut être toléré.
Alors que dit-on aujourd'hui de Jacques Chirac en Israël? Le regard sur l'ancien président n'est peut-être pas si clément que cela. Il y a la séquence restée célèbre où il malmène des gardes du corps israéliens dans la vieille ville de Jérusalem. Et puis une partie du monde arabe considérait Chirac comme l'un de ses meilleurs défenseurs. Alors Alice Froussard, que dit-on de lui aujourd'hui de Tel Aviv à Jérusalem?
À Jérusalem, côté israélien, quand on parle de Chirac, Lior nous dit qu'il a aidé la communauté juive.
C'est lui qui a aidé à la reconnaissance de la rafle du Veldiv.
C'est aussi le chef d'État français le plus charismatique, estime Shimon, habitant de Tel Aviv, venu ici passer Shabbat en famille.
Tout d'abord, c'est un géant, ouvert d'esprit, qui sait ce qu'il veut. C'est peut-être pour ça que nos hommes politiques ne l'aiment pas trop.
Rien à voir avec sa popularité côté palestinien. En Israël, la jeune génération ne le connaît pas, les autres ne s'en rappellent plus, ou comme Aaron, n'ont pas un souvenir de lui très positif.
J'ai entendu parler de lui, je connais son nom, mais je ne me rappelle pas vraiment de quelque chose de marquant qu'il ait fait ici. Jacques Chirac était un partisan de la cause arabe.
Il faut dire que l'histoire de Chirac avec le pays ne joue pas en sa faveur, explique Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv.
C'est le président de la République, lorsqu'il reçoit Netanyahou à l'Élysée, le maltraite en le traitant en gros de menteur. le Chirac qui donne tous les honneurs à Yasser Arafat après qu'il meure à Paris en 2004. C'est sûr qu'en tout cas, en Israël, il n'a pas vraiment bonne presse.
On retient surtout ses successeurs, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, qui ont depuis pacifié les relations. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
En France, cette dernière minute, une minute de recueillement sera organisée avant tous les matchs de foot de championnat ce week-end. C'est ce qu'annonce la fédération à l'instant. Ce matin, sur France Inter, deux témoins très précieux, deux anciens premiers ministres, du Grand, c'était son surnom, étaient les invités d'Inter. Alain Juppé, Dominique de Villepin, Florilège, montage signé Estelle Schmitt.
C'est quelqu'un qui était dépourvu de toute arrogance et qui, au fond, ressemblait un peu à tous les Français. À la fois râleur, un peu menteur, gouailleur, ripailleur, mais en même temps, le cœur sur la main, attentif aux autres, toujours prêt à apporter son soutien. En ça, c'était un homme exceptionnel, doté d'une humanité qui, moi, m'a profondément touché. Et je pense qu'en ça, chacun des Français aujourd'hui se sent un peu orphelin. On a tous perdu un père, un grand-père, quelqu'un qui nous faisait aimer la vie plus grande et peut-être plus belle.
Nous avions, lui et moi, une relation assez unique dans le monde politique. On a dit parfois une relation filiale. Nous n'avions que 12 ans de différence, donc c'était pas assez pour qu'il soit mon père. Mais nous avons su entretenir tout au long de 40 ans une confiance réciproque qui ne s'est jamais démentie. Et puis bien sûr, il m'a donné toutes mes chances. J'écoute avec beaucoup d'attention tout ce qu'on dit sur son parcours politique. Vous dites que tout a été dit. Non, il reste encore beaucoup à dire, tant cette vie a été dense et riche. Ce qui ressort d'abord, c'est une personnalité assez exceptionnelle. Le bulldozer, d'ailleurs. D'abord, la première facette de son personnage que j'ai connu en 76 quand il a créé le RPR. Et puis après, il y a aussi, et je crois que ça ressort bien de tous les témoignages qui ont été donnés, l'homme tellement attentif aux autres.
Alors à propos de parcours politique, Yael Goz, chef du service politique d'Inter, vous êtes resté dans ce studio qui est un peu votre deuxième maison, hein, depuis hier.
J'ai pris mon duvet.
Là, Yael, on vient d'entendre deux héritiers de Chirac retirés de la vie politique la plus active. Dans l'arène, aujourd'hui, qui sont les héritiers?
En fait, ils sont complètement disséminés, les héritiers, car la grande œuvre de Jacques Chirac en 2002, l'UMP, cette grande maison qui réunissait la droite et le centre, rebaptisée LR, les Républicains, par Nicolas Sarkozy en 2015, cette maison-là, elle se fissure profondément en 2017 après l'échec de Fillon et la recomposition version En Marche. Donc, dissémination des héritiers. Le plus évident, c'est François Baroin, maire de Troyes et président de l'Association des maires de France. Jacques Chirac était comme son deuxième père. Chez les LR, il est regardé comme un candidat crédible pour 2022. Pour l'instant, il n'en manifeste pas l'envie. Chez les LR, toujours, est très affecté aujourd'hui, comme François Baroin, par la disparition de Jacques Chirac, Christian Jacob. Il devra en porter haut la main l'élection pour la présidence du parti mi-octobre. Donc là, on aura un Chiracien pur jus à la tête d'un parti d'opposition, Emmanuel Macron. Les Chiraciens, ils sont aussi nombreux. En dehors des frontières LR, Valérie Pécresse, région Île-de-France, Xavier Bertrand, dans les Hauts-de-France, mais pas Laurent Wauquiez. Les compagnons de route de Jacques Chirac ne lui pardonnent pas son ambiguïté de l'entre-deux-tours de la présidentielle quand il refuse d'appeler à voter Macron pour faire battre Marine Le Pen. Donc là, il n'a pas son brevet de Chiraci, Laurent Wauquiez. Les Chiraciens non retraités, toujours actifs, il faut aller les chercher aussi en Macronie. Jean-Paul Delevoye, en charge des retraites, au commissaire, Bruno Le Maire, à Bercy, Sébastien Lecornu, pour les collectivités locales, Hugues Rançon, le député à l'Assemblée. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de chiracisme. Jacques Chirac récusait ce terme-là, ce logiciel-là, l'idée qu'il y aurait un courant chiracien, mais il y a une famille chiracienne.
Et comme François Mitterrand, dans un registre différent, l'homme aux plus de 40 ans de vie politique a eu sa part d'ombre qui a recouvert tout le reste à certains moments. Les affaires, beaucoup tournaient autour de la ville de Paris qu'il avait dirigée pendant 18 ans, de 77 à 95. Les HLM de la ville de Paris, il a bénéficié d'une immunité. Les frais de bouche, non-lieu à la fin. Et puis les emplois fictifs, 2 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts, abus de confiance. Il fut le premier président de la Ve République condamné. L'avocat Jérôme Carsenti d'Anticor avait plaidé à l'époque.
On se souvient qu'à l'audience, les deux procureurs de la République présents ont demandé la relaxe de M. Jacques Chirac. On se souvient que la mairie de Paris avait passé un accord avec M. Jacques Chirac de sorte qu'il n'y avait pas de partie civile et que subitement, Anticor, qui était totalement inconnu à l'époque, débarquait dans le prétoire pour apporter la contradiction à Jacques Chirac. Et c'est vrai que ça a été terrible parce qu'on a eu une levée de bouclier. D'abord, qui étions-nous? Quelle légitimité nous avions? Quel était l'avocat que j'étais? Bref, je pense que c'est un procès qui a été fondamental parce qu'on a désacralisé ce qui était intouchable. On a enfin dit qu'un homme politique de premier plan, un ancien président de la République, pouvait également répondre de la justice des hommes. Et la réalité, c'est que la justice a souvent et longtemps été au service du pouvoir. Et là, la justice finalement prenait son indépendance. Il y a eu tellement d'affaires avant qui étaient enterrées que cette idée-là, que cette condamnation était possible, a redonné beaucoup d'espoir et ça a lancé tout ce qu'on a eu derrière, c'est-à-dire la création du parquet national financier et la manière dont la société civile a pu exister aujourd'hui et existe encore aujourd'hui dans les prétoires.
Un propos recueilli par Emmanuel Leclerc. Parmi les initiatives annoncées ce matin, il y a celle du musée du Quai Branly, qui porte aussi le nom de Jacques Chirac. Il sera ouvert gratuitement pendant une dizaine de jours. Ce musée des arts premiers, Corinne Pélissier, c'est l'œuvre de l'ancien président, là qu'il avait fait sa dernière apparition en 2014. C'était huit ans après l'inauguration. Est-ce que ce musée a trouvé sa place dans le paysage culturel ?
Avec sa grande façade vitrée recouverte de verdure, le musée du Quai Branly est aujourd'hui l'un des plus visités de la capitale. 15 millions de billets vendus depuis son ouverture le 20 juin 2006. Ce jour-là, Jacques Chirac concrétise sa plus grande ambition en faveur du dialogue entre les peuples.
Plus que jamais, le destin du monde est là, dans la capacité des peuples à porter les uns sur les autres un regard instruit.
Un outil pour mieux comprendre le monde et sa diversité qui a su immédiatement conquérir le public.
Je suis au musée du Quai Branly très très régulièrement. J'ai une carte d'amis du musée et je viens plusieurs fois par mois en général.
Il en a fait quelque chose qui n'était pas sacralisé pour les spécialistes. Je le trouve quand même très didactique, très bien fait. Puis il a mis en valeur pas mal de choses qu'on ne connaissait pas.
Une atmosphère unique avec ses trois niveaux de galeries reliés par une longue rampe sinueuse. Et cette collection de plus d'un million de pièces, des sculptures, des textiles, des photos, des moulages venus d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et choisis pour certaines par Jacques Chirac lui-même. 13 années d'acquisition, d'exposition, de découverte sur le thème de l'Arcanac, du surf, de la Polynésie et même un portrait culturel de l'ancien président en 2016 pour la Grande Expo des 10 ans, date à laquelle le nom de Jacques Chirac a officiellement été ajouté à celui du musée.
Voilà pour ce reportage de Corinne Pélissier. Et comme promis, une autre histoire de photo pour finir cette page Chirac. Celle où on le voit sauter par-dessus le tourniquet du métro. C'était le 5 mars 1980. Le maire de Paris vient inaugurer ce jour-là une exposition de peinture à la station Aubert. Costume, cravate, lunettes carrées et hop, le tourniquet. Le photographe Jean-Claude Delmas était là. Il travaillait pour l'agence France Presse.
Je me dis, tiens, bon, je vais me diriger seul discrètement vers l'entrée de la station. Et attendre l'arrivée du maire de Paris. Et effectivement, quand il arrive, il est suivi de son staff de la mairie de Paris. L'un des directeurs du métro lui glisse un ticket de métro dans le portique de l'entrée. Mais comme tous les hommes politiques français, en tout cas pour la plupart, ils n'ont jamais pris le métro de leur vie, Jacques Chirac oublie de retirer le ticket. Il se retrouve bloqué devant le portique, il ne sait pas quoi faire. Il se dit, mais pourquoi ? À ce moment-là, il me voit, j'étais le seul photographe, il me connaît bien, puisque je l'avais suivi pendant des années, et il saute devant moi. Gaillard, et dynamique, à la Chirac, comme il savait le faire. Je crois que c'était vraiment très instinctif pour lui. S'il y avait eu plusieurs photographes avec moi ou caméraman, je ne suis pas certain qu'il l'aurait fait. C'était un clin d'œil, peut-être, en sachant que j'étais le photographe de l'AFP et que ça allait être diffusé.
À propos recueilli par Alexandra Akoun et l'enterrement de Jacques Chirac, ce sera donc lundi au cimetière du Montparnasse à Paris. Qu'en aurait-il dit ? Un événement important, un vote important ce matin à l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui a voté l'article 1 du projet de loi bioéthique, l'article qui consacre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Vote sous les applaudissements, pas énormément de députés présents. Le projet de loi, enfin cet article a été adopté par 55 voix contre 17 et 3 abstentions. Voilà, article 1, projet de loi bioéthique, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes adoptées. À Rouen, 24 heures après l'incendie dans l'usine d'additifs Lubrizol, le feu est éteint, mais les pompiers le surveillent de très près. Demeure une odeur tenace d'œufs pourris, de la fumée, des gens qui ont la gorge qui gratte, des maux de tête, des vomissements. Quelle toxicité réelle ? On voit cela dans un instant avec Sophie Bécherel. D'abord, reportage sur place avec Mathilde Dehimil, envoyée spéciale de France Inter. Bonjour Mathilde.
Bonjour Bruno.
Où va aller se nicher la suie retombée après cet incendie ? Mathilde, vous avez fait le tour des jardins ouvriers de la ville.
Oui, et tôt ce matin, Jean-Pierre est venu scruter son jardin à Repinville. Il a préféré fuir la ville hier avec sa famille, inquiétude en examinant son potager.
J'ai regardé de très très près tout ce qui est feuilles, parce que bon, les particules, c'est grand, ça colle.
Et même sur les serres, on n'a rien du tout.
Vous êtes soulagé?
Complètement. Parce qu'on a quand même tous les légumes d'hiver qui sont ici, qui vont rester jusqu'à fin octobre, début novembre. C'est pour faire les soupes et tout, c'est important.
Pas de traces de suie sur les carottes, les choux, les poireaux. Les jardiniers soufflent après avoir été évacués hier par précaution. Le panache de fumée est passé tout près sur la colline juste en face, raconte Paul, le président de l'association des jardins familiaux de Rouen.
La chance qu'on a eue aussi, on serait peut-être touché, mais avec la pluie qui est tombée, nous, ça nous a fait comme un sort du rideau. La poussière continue à partir dans l'autre sens et on a été un peu épargné. Sincèrement, on pense qu'ils ont passé par là-bas, mais on ne sait pas s'il y a des résidus qui se sont déposés sans qu'on sache aussi, quoi.
Pas de traces de dépôt, mais les 88 jardins sont classés en zone naturelle. Paul se demande donc s'il ne faudrait pas vérifier l'absence de pollution.
Sécurité voudrait quand même qu'on fasse faire des analyses aux légumes qui nous restent sur place. Je pense aussi le faire bouillir, en premier lieu vider la première eau, faire un maximum de nettoyage avant de les consommer, quoi.
Les autorités sanitaires recommandent en effet de bien laver les légumes du jardin et de nettoyer les dépôts de suie sur les voitures et les maisons avec des gants pour se protéger.
Merci Mathilde Dehimy, en direct de Rouen avec François Rivalan. Nos confrères de France Bleu Normandie ont compté 8 personnes hospitalisées dans la ville pour des problèmes respiratoires. Sophie Becherel, vous nous avez rejoint. On le voit, l'inquiétude demeure, hein, même si la préfecture assure que ce nuage n'a pas de toxicité aiguë. L'association Robin des Bois réclame une enquête environnementale. Alors qu'en est-il? Que peut-on dire à ce stade de la toxicité de ces fumées, Sophie?
En effet, une certaine anxiété demeure et en cause les symptômes dont vous avez parlé pour certains, et surtout ce matin, l'odeur d'œufs pourris tenace sur l'agglomération, signe qu'il y a dans l'air un gaz soufré, peut-être du mercaptan, ce fameux gaz qui avait fuité en 2013. Par ailleurs, le préfet a beau délivrer un message rassurant, il ne dit rien des composés mesurés, mais des mesures il y en a. Dès hier matin, 5h, Atmo Normandie, l'organisme qui contrôle la qualité de l'air, a mis à disposition des pompiers du matériel, des filtres, des jauges, des canistères, ce sont ces absorbeurs de gaz, pour prélever au cœur du panache de fumée. Mais ces échantillons doivent à présent être analysés. C'est l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques en banlieue parisienne, qui va s'en charger et cela va prendre plusieurs jours. Parmi les composés recherchés, dit Atmo Normandie, il y a les métaux lourds, cadmium, nickel par exemple, les composés volatiles organiques et les hydrocarbures complexes, le benzoapyrène, le nitroapyrène, la dioxine, tous cancérigènes et tous soumis d'ailleurs à des seuils réglementaires. Dans ce cas précis, ce sont les pompiers qui ont été en première ligne, en restant chez eux, les habitants de l'agglomération se sont protégés et n'ont finalement pas été exposés massivement.
Merci Sophie Becherel. Et à gauche, au plan national, écolo, France Insoumise et communiste demandent plus de transparence sur cet accident industriel. Nous le disions tout à l'heure, ce jeudi est jour de conseil des ministres et pas un petit conseil. C'est le jour où on examine le document qui engage une bonne partie de la politique pour les années à venir, pour les mois à venir au moins. Le budget. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Alors le budget, dans ce maquis de chiffres, retenons-en deux. Des baisses d'impôts de plus de 9 milliards d'abord.
Oui, c'est un budget du pouvoir d'achat. La taxe d'habitation sera définitivement supprimée l'an prochain pour 80% des foyers. Les exonérations d'heures sup vont s'amplifier. Mais la mesure phare de ce budget, c'est la baisse d'impôts de 5 milliards d'euros pour les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui déclarent entre 20 et 25 000 euros de revenus par an. Selon les calculs de Bercy, 13 millions de foyers dont la première tranche d'impôts à 14% bénéficieront à plein de ce geste fiscal. Pour eux, l'impôt baissera de 350 euros en moyenne. Au-delà de 27 500 euros de revenus, la tranche d'impôt à 30% pour un célibataire, le gain sera moindre, 125 euros par an. Avec le prélèvement à la source, cet allègement fiscal, les contribuables le verront dès janvier sur leur bulletin de salaire.
Autre chiffre marquant, Delphine Simon, seulement 47 suppressions de postes de fonctionnaires d'État l'année prochaine.
Oui, c'est ce qu'affiche le compteur des baisses d'effectifs dans la fonction publique d'État. Il y a de fortes hausses et de grosses baisses dans les ministères, explique Bercy. Certains vont gagner des postes, l'intérieur, les armées, la justice. D'autres ne pas trop en perdre, comme l'éducation. Du coup, le gouvernement renonce à sa promesse. Sur les 50 000 postes de fonctionnaires censés disparaître sur le quinquennat, seuls 10 500 pourraient finalement être supprimés. Un renoncement qui ne va pas contribuer à faire baisser les déficits. Malgré les taux d'intérêt bas, la dette publique sera stable l'an prochain. La crise sociale des Gilets jaunes est passé par là.
là. La demande de services publics est forte. Bref, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, assume, c'est un budget politique.
Et détail important pour ceux qui sont propriétaires de leur logement et qui redoutent une hausse de la taxe foncière. La réforme de cette taxe sera effective à partir de 2026, est-il précisé ce matin. Qui est le lanceur d'alerte qui met Donald Trump en difficulté une nouvelle fois? Le président américain, à nouveau menacé d'une procédure d'impeachment pour avoir fait pression sur le nouveau chef d'État ukrainien. Sur le mode « vous avez besoin d'armes américaines », eh bien creusez en échange une affaire qui peut mettre en difficulté un concurrent à la Maison-Blanche, Joe Biden. La plainte déposée par un mystérieux agent du renseignement a été rendue publique. Hier également, le patron du renseignement américain était entendu par le Congrès. France Inter à Washington, Grégory Phillips.
Lors de son audition devant les parlementaires hier, le patron du renseignement américain, Joseph Maguire, a expliqué qu'il ne connaissait pas l'identité de ce lanceur d'alerte. Je sais simplement qu'il travaille pour nous et qu'il a respecté toute la procédure pour informer sa hiérarchie des éléments qu'il avait à sa disposition. En vérité, hormis l'inspecteur général du renseignement et les avocats du lanceur d'alerte, personne ne sait qui est cet homme ou cette femme. Le New York Times affirme que c'est un analyste de la CIA affecté à la Maison-Blanche et qui connaît bien le dossier ukrainien. Donald Trump, lui, ne décolère pas. Dans une réunion hier avec des diplomates américains à New York, il était même menaçant. Ceux qui ont parlé à ce lanceur d'alerte, c'est comparable à de l'espionnage. Et savez-vous comment on traitait les espions et les traîtres? Au bon vieux temps, on s'en occupait un peu différemment d'aujourd'hui. Ces propos, enregistrés à l'insu du président, ont été dévoilés hier par le Los Angeles Times. L'avocat du lanceur d'alerte dit craindre pour la sécurité de son client, un héros pour les démocrates, un traître pour les partisans de Donald Trump. Washington, Grégory Phillips, France 1.
Cette dernière minute, la réaction de la Chine au décès de Jacques Chirac. Xi Jinping salue un vieil ami de la Chine. Voilà ce que nous dit l'agence France Presse. À Doha, au Qatar, s'ouvrent aujourd'hui les championnats du monde d'athlétisme. Parmi les disciplines les plus spectaculaires, le saut à la perche. Vous le savez, dans ce journal, chaque vendredi, il y a cette rubrique « J'ai testé pour vous ». Eh bien, cette semaine, Guillaume Batin, du service des sports, a testé pour nous le saut à la perche. Il s'est rendu au Dynamic Aulnay Club en Seine-Saint-Denis. Son coach s'appelle Sébastien Homo. Il est entraîneur fédéral. Voici Guillaume avec le coach au pied du sautoir.
Je suis un peu effrayé par ces deux barres verticales et puis l'horizontale que vous allez placer, j'imagine pas trop pour moi. Si je veux faire un saut dans quelques dizaines de minutes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
On va y aller très progressivement, donc on va commencer avec pas mal d'exercices directement sur le sol, avec des sauts qui vont à peine dépasser les 30-40 cm, et puis au fur et à mesure, on va prendre la perche de plus en plus haut, créer des effets de levier qui sont de plus en plus importants, et donc monter de plus en plus haut.
Qu'est-ce que vous me donnez comme objectif de hauteur?
Donc d'abord s'amuser, et puis après, aux alentours de 2 mètres. Pour une première fois, ça serait déjà bien. Ça serait déjà bien. Donc on va commencer. Chauffer les épaules, tourner dans un sens, on les tourne dans l'autre. Voilà, le bassin, le dos, bon, toujours un peu d'appréhension.
Ça n'a pas l'air grand-chose, mais quand on est de tout son corps à 2 mètres de hauteur,
2 mètres, ça correspond au petit trait rouge sur le poteau, là.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme perche qui traîne ici? Toutes les perches sont en fibre de verre, donc à base de fibre de verre. Il y en a certaines qui sont un peu plus grises, qui sont à base de fibre de verre, un mélange de fibre de verre et fibre de carbone. Donc je te donne celle-ci.
Elle est un peu collante, c'est normal.
Alors, les perches sont souvent un peu collantes, parce que souvent les perchistes ont besoin de bien coller leurs mains à la perche. C'est ce qui nous relie au sol. Hein, donc, je vois que tu es très ambitieux, tu l'as prise tout de suite tout en haut.
C'est vrai.
C'est bon signe. Tu sais tenir ta perche, tu sais courir, sauter avec. Maintenant, le but, le jeu à la perche, c'est d'essayer de prendre la perche le plus haut possible, de prendre les perches le plus dur possible et d'avoir la meilleure technique pour pouvoir optimiser tout ça. Mon record, c'est 5,55 m. Donc ça commence à remonter un petit peu, c'était en 2005. On s'entraîne toute une vie pour au final avoir 5 minutes de gloire.
Pour moi, ma minute de gloire, c'est quand j'aurai passé 2 mètres. On y va?
Voilà.
Le défi est relevé.
Voilà, premier saut à 2 mètres.
Merci Sébastien et bonne chance avec tes athlètes à Doha alors.
Merci et puis on va essayer de faire le mieux possible pour ramener des médailles et pour en tout cas donner le mieux. Voilà, pour être fier de soi à la fin de la compétition.
Eh bien, bravo à Guillaume Batin et merci à Sébastien Homo qui entraîne la championne de France Ninon Guillon Romarin qui participe aux Mondiaux d'athlétisme. La finale du saut à la perche chez les dames, c'est dimanche, un des premiers événements du week-end. Avant cela, le rendez-vous, c'est aussi le 100 mètres hommes. Ce sera samedi, la finale du 100 mètres.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Élodie Calac.
Des Landes vers le Limousin, le nord-est, on retrouve notre perturbation avec beaucoup de nuages, encore un peu de pluie, plus continue dans la partie nord. Le vent souffle jusqu'à 50 à 60 km à l'heure. Entre le nord-ouest, le bassin parisien, le nord du centre-val de Loire, jusqu'aux frontières belges et luxembourgeoises, le ciel est plus variable. Entre éclaircies, nuages, quelques averses, des averses plus nombreuses près de la Manche. Le vent est également présent, surtout sur les côtes, jusqu'à 70 à 80 km à l'heure. Et puis dans le sud, c'est plus calme, des éclaircies des Pyrénées au Lyonnais, un beau soleil entre la Méditerranée et les Alpes. Comptez 17 à 22 degrés au nord, 19 à 25 sur le sud-ouest, 24 à 30 entre la Méditerranée et Rhône-Alpes. Demain, ce sera souvent ensoleillé avec plus de nuages au nord de la Loire et puis dimanche, de nouvelles pluies arriveront par l'ouest.